Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le beau, le célibataire, le maître des castors, Julien Vénesson.
Salut Rudy.
Alors Julien, pourquoi te surnomme-t-on le maître des castors?
Je sais pas, je suis surpris.
En fait, Julien est surveillé. On m'écrit, on me rapporte ses faits et gestes de là où je me trouve, depuis ma bas cave. On m'envoie des messages sur Facebook pour me dire ce que fait Julien et ce qu'il raconte comme l'acte pour draguer.
Oui, parce qu'alors, pour la petite histoire, j'étais il y a quelques jours à Paris du côté de Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, à la station de RERB, qui était en travaux. Il y avait des petits panneaux avec écrit que c'était les travaux. Et puis, ils avaient fait un petit dessin d'un petit castor vert pour symboliser le travailleur qui s'occupait des travaux. Et j'étais en compagnie d'une jeune fille et ça m'a fait rire. Et puis j'ai regardé le panneau et j'ai vu, c'est des castors qui font les travaux. Et apparemment, quelqu'un qui te connaissait nous a entendu.
Et donc, m'a écrit directement sur Facebook. Je me suis empressé ensuite de contacter Julien pour savoir la véracité de l'histoire. Et l'histoire était vraie.
Oh, c'est incroyable.
Et donc, Julien a aussi été vu à la salle par un de mes élèves.
Ouais.
Qui m'a dit que tu parlais beaucoup, d'ailleurs.
Ouais, lui, il était très sérieux. Il s'est bien entraîné. Bon, il était un petit peu faible, hein, tu lui diras.
Non, non, il est vachement fort. Johan, si tu m'écoutes, on parle de toi. Non, attends, je rigole.
Non, il est très sympa. Il m'a posé des questions. Il était cool.
Voilà, Julien Vénesson, mesdames et messieurs, est surveillé par toute la planète. Ouais, il ne peut plus sortir de chez lui sans que je sois au courant de ses moindres gestes. Donc, pour continuer sur cette actualité et parler de tes mauvais goûts en film, ouais. Il y a un film qui n'est pas encore sorti au cinéma, mais que tout le monde a déjà vu presque dans le milieu de la muscu. Donc c'est No Pain No Gain, avec Mark Wahlberg et The Rock.
Mais comment ça se fait que vous l'avez déjà vu?
Oh, tu l'as déjà vu aussi, quel salaud. Je sais pas, moi c'est quelqu'un que je connais qui l'a téléchargé et qui me l'a montré.
Ah d'accord, ah, parce que Rudy il est pas sorti le film, alors bon, c'est quand même important de soutenir l'industrie du cinéma.
C'est pas moi qui mets le film à télécharger. Ah putain, le fait pourri. Bon, enfin bon, tous ceux qui l'ont vu ont trouvé le film nul.
Apparemment, oui.
Sauf toi, Julien. Donc moi, je n'avais pas vu le film. Julien m'a dit, c'est un super film, c'est super.
Moi, j'étais chez une amie qui l'avait téléchargé. Je pensais que c'était un vieux film qu'elle avait en DVD, mais en fait, non. Elle l'avait téléchargé illégalement, manifestement. Alors, bon, maintenant, je suis outré maintenant que j'apprends ça, mais bon. Donc j'ai vu le film avec elle et j'ai trouvé que je passais, c'était sympa. Après, j'ai vu qu'effectivement, beaucoup de gens trouvaient que les bodybuilders étaient ridiculisés dans le film. Mais c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est pas du tout un film spécialement dédié au bodybuilding, ça n'a rien à voir, quoi. C'est une espèce de comédie un peu loufoque, tout est très exagéré, les personnages, ils ont des traits de caractère très exagérés, des comportements très exagérés, les blagues sont aussi très, très exagérées, donc c'est un peu spécial, mais bon, on s'ennuie pas.
Oh, non mais sans rire, le film est un, je sais pas, tout. Ceux qui ont vu le film, vous pourrez commenter après le podcast. C'est un navet. Les futuros passent pour des cons. Mais vraiment, là, c'est vraiment. Il y a un coup vite fait dans le film, le mec fait une crise parce qu'il a pas, il a déjà des pecs énormes, il en veut plus et puis ça gonfle pas plus. Et le mec il fait une crise énorme. C'est que des trucs, que des culturaux qu'on a. Déjà qu'on passe pour des cons normalement, les mecs qui font de la muscu. Mais alors là, après le film, j'espère que personne va aller le voir, mais. Parce que là, quelqu'un qui est pas du milieu et qui voit ça, il se dit « Ah non, mais merde, ils sont comme ça, ils sont aussi cons que ça. »
Bah, je pense qu'ils avaient pas besoin du film pour se rendre compte.
Ah, mais là, vraiment, le film fait vraiment débile. Hein. Car ceux qui l'ont pas vu verront, mais... Et même l'histoire, tout est à dormir debout, il y a rien de...
Mais, enfin, c'est tiré d'une histoire vraie.
Ouais, mais les mecs pourraient pas être aussi cons.
C'est très romancé. Apparemment, ils étaient très cons, les vrais mecs.
Attends, il y a un mec, un coup, il se fait tuer avec une plaque de vin sur la gueule.
Bah, je me rappelle pas, mais
il paraît que des trucs à dormir debout.
Dans l'histoire vraie, les mecs étaient vraiment cons parce que ils ont dépensé le fric après avoir volé le mec riche, là. Ils ont dépensé le fric en boîte de nuit et en alcool, drogue et prostitution, quoi.
Ouais, bah, ça m'étonne pas, mais. Mais vraiment, le film nous fait vraiment passer pour des cons et en plus, c'est nul, quoi. L'histoire est nulle, les répliques sont nulles, et pourtant, il y a des bons acteurs. Alors, je sais pas qui a eu l'idée de faire ce film, mais fallait pas le faire, quoi.
En tout cas, on a bien compris que t'avais pas spécialement apprécié.
Bah non, pas du tout. Je l'ai vu une fois, ça a été un calvaire. Je me suis forcé pour aller jusqu'au bout pour dire bon, faut qu'on en parle dans le prochain podcast, faut que je le regarde, quoi.
Ah d'accord, bon.
Et sinon, j'aurais coupé avant. Et donc, enfin, une vraie actualité pour ce podcast, je sors mon 3e e-book. Donc, il sera disponible dès la semaine prochaine pour mes élèves, donc ils sont prévenus par email pour les préventes, et d'ici 2 semaines, donc début septembre, pour tout le monde. Sur quel sujet est cet e-book? Julien l'a déjà lu et m'a fait un excellent témoignage d'ailleurs. Grâce à ça, il a déjà pris 2 kilos de muscles. Ouais. Julien, c'est vrai.
Fais-moi rire.
Ah merde, t'as pris 0 kilo? Toujours aussi maigre, merde.
Bah oui.
T'as été malade. Bon, sans rien. Donc, j'avais fait donc le dernier e-book, c'était Rudy Cohen, mes secrets pour sécher. Et donc là, bah, j'ai fait le même avec mes secrets pour la masse. Donc, ça, c'est la même trame que pour sécher. Donc, où je montre des exemples d'élèves de prise de masse propre, telles que je conseille. Donc, pas de massacre. Comment ils ont fait. Donc, on voit point par point exactement comment faire une prise de masse, comment faire sa diète, comment augmenter, comment suivre le rythme, choisir ses aliments, etc. Choisir ses suppléments, forcément. On y parle d'entraînement, on y parle de cardio, on y parle de vergeture. Mon e-book est assez complet, c'est le plus long que j'ai jamais écrit. Plus ça va, plus ils sont longs.
Alors effectivement, je l'ai lu et effectivement, je trouve vraiment que c'est bien parce que je dis pas ça parce que je connais Rudy et voilà. Et vraiment, je pense que c'est un bon e-book parce que déjà, bah il est complet, il est clair et bien expliqué, même si j'ai dû relire et corriger les fautes d'orthographe.
C'est vrai, je confirme.
Par contre, je pense que c'est vraiment un bon support parce que c'est très pratique, c'est vraiment, on peut tout de suite mettre en pratique les choses, on est vraiment dans le concret, on perd pas de temps et on comprend tout de suite où on va, et ça c'est vraiment bien parce que je pense que ça manque beaucoup au bouquin.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de théorie, moi j'aime bien plutôt la pratique, hein, parce que j'ai bien vu que la théorie de toute façon ça embrouillait tout le monde.
Bah, c'est pas, je trouve pas que tu sois que dans la pratique, je trouve que ce qui est intéressant dans ton propos c'est que tu relis justement la théorie avec la pratique et tu le fais de belle manière, en fait ça s'enchaîne assez logiquement.
Julien, je suis désolé de te l'annoncer, mais on va pas se marier tous les deux.
Non, mais du coup moi je trouve vraiment c'est convaincant, moi j'ai vraiment bien aimé l'e-book, donc je conseille à tout le monde de l'acheter.
Bah évidemment, si tu conseillais pas tu serais déjà mort.
Non mais d'ailleurs une petite parenthèse par rapport à ça, parce que j'ai vu parfois sur internet ou ailleurs certaines personnes qui critiquaient par exemple le fait que tu vendes des e-books comme quoi tu faisais ton business, donc voilà, que c'était en gros de l'arnaque. Mais je pense que ce que les gens peut-être se rendent pas vraiment compte, c'est que quand on a envie de se faire un vrai programme de muscu qui fonctionne, acheter un e-book à 20€ ou quelque chose comme ça, c'est pas une arnaque, c'est un service.
C'est toujours mieux que d'acheter, comme certains m'écrivent après, qui achètent un supplément à 50 balles et qui savent pas comment le prendre.
Oui, d'autant plus, et en fait, c'est souvent une économie au final. C'est comme les gens qui ont acheté Nutrition de la Force, donc mon premier livre, et qui, après coup, savent quels sont les compléments alimentaires efficaces et ceux qui ne le sont pas, ils font des économies parce qu'ils vont à l'essentiel, et j'ai souvent eu des témoignages de personnes qui étaient contentes par rapport à ça, donc là, c'est la même démarche. Alors évidemment, si on n'a pas envie de faire un programme pour prendre de la masse musculaire, ça sert à rien d'acheter l'e-book de Rudy, mais si on a envie de progresser rapidement sans se poser de questions et qu'on n'a pas...
Pas perdre de temps surtout, parce que souvent on cherche les secrets, les trucs et tout, et on sait pas quoi faire, alors que là, directement, on achète l'e-book sur n'importe lequel, et à chaque fois, il y a un sujet précis avec une réponse concrète.
Et puis c'est moins cher qu'un coaching. Hein,
oui, c'est moins cher qu'un coaching, et puis surtout, c'est moins cher qu'un supplément à la con qui sert à rien.
Donc bref, enfin tout ça pour dire que... c'est pas parce que quelqu'un, que ce soit Rudy, moi ou le pape, vous vend quelque chose que c'est une arnaque. Hein.
Ah mais toi de toute façon, Julien, on sait que t'es un vendeur.
Ouais.
Julien, il est énervé parce qu'il vient de se faire critiquer.
Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet, peut-être.
Voilà, il se fait critiquer injustement, je trouve d'ailleurs. T'as vu, je te soutiens, Julien.
C'est gentil.
Alors, première question du podcast, Julien. Tu nous indiques que le cholestérol alimentaire n'a aucun lien avec le cholestérol sanguin. Qu'est-ce qui fait donc monter le cholestérol sanguin ?
Alors, le cholestérol, donc, comme tout le monde doit le savoir maintenant, c'est un sujet qui est propice à la polémique. Hein. On a eu récemment, enfin il y a quelques mois, des interventions audio et télévisuelles qui visaient d'un côté à dire le cholestérol, c'est pas bien, de côté on s'en fout du cholestérol, enfin bref, il y a eu toutes sortes de discordances. Par contre, il y a quand même un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que le cholestérol, c'est un marqueur d'un risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que ça indique, on va dire, je simplifie à l'extrême, et ça indique, avoir un cholestérol assez élevé, indique qu'on n'a peut-être pas des artères en très bonne santé. Donc du coup, ce qui augmente le taux de cholestérol, c'est tout ce qui a un impact négatif sur la santé artérielle en général. Donc c'est extrêmement large. Ça peut être le surpoids et l'obésité, ça peut être le tabagisme, ça peut être le fait de manger trop de mauvaises graisses, donc pas assez d'oméga 3, trop d'oméga 6, trop de graisses saturées par exemple, en supposant, enfin, faudrait déterminer une quantité précise qui est plus compliquée, mais tous les facteurs alimentaires aussi, manger trop de glucides, tout ça, ça contribue à avoir un taux de cholestérol qui augmente. Donc tout ce qui n'est pas sain, en fait, contribue à avoir un taux de cholestérol élevé. Donc, voilà, c'est simple, hein, suivez les conseils habituels sur la nutrition et ayez de l'activité physique et vous aurez un taux de cholestérol qui sera bas. Et s'il n'est pas bas, c'est probablement génétique et c'est pas forcément anormal.
J'en profite pour faire un petit aparté. Normalement, Alternatif Bien-être, on devait le recevoir là au mois d'août et je l'ai toujours pas reçu d'ailleurs.
Tu l'as pas encore reçu toi ?
Non.
Bah merde alors. Attends, parce que toi, on te l'a renvoyé au moins 3 fois.
C'est vrai ?
En fait, Rudy, faut peut-être qu'on t'envoie aussi un tutoriel pour t'expliquer comment utiliser ta boîte mail.
Attends, bah je regarde. Santé, nature, innovation. Non, mais j'ai vraiment rien.
J'ai deux personnes maintenant j'ai plus que deux personnes qui disent qu'ils ne l'ont pas reçu, donc il y a toi et un autre monsieur dont je connais pas le nom, mais
Moi j'ai absolument rien, ni dans les spams, nulle part. Hein.
Bon.
Alors je sais pas ce que vous faites.
Écoute, je transmettrai à qui de droit.
Ouais, parce que là, que dalle, hein. Alors c'est bien beau de s'abonner, je ressens même pas l'actu pour rester. Moi qui voulais être immortel.
Ouais, c'est ouais, mal barré.
Non, j'ai toujours pas, hein. Je sais pas ce que ça fout.
Alors Rudy, question d'entraînement maintenant. Que penses-tu du soulevé de terre en série de 15, en étant au moins à 70% de son maximum ? Je progresse pas mal sur ce format, même si c'est un peu cardiaque. Première partie de la question. On t'écoute.
Je pense que le soulevé de terre en série de 15, c'est un peu trop. Je pense que justement, comme il a bien... La personne qui pose la question a bien défini le problème, c'est un peu cardiaque, et en fait, quand il va vraiment forcer, parce que normalement, 70% de son ARM, bah justement, on fait que 15 reps à fond. Donc, moi qui ai déjà fait un peu de soulevé de terre en série longue, je sais que 15 reps, si c'est vraiment le 15 RM, la séance est finie. Hein.
Ouais.
C'est pratiquement fini, on va aller vomir, on est tout blanc, c'est fini quoi. Donc, bah, en général, le soulevé de terre, en plus, on le décommande de le faire en série assez longue. Il y a toujours cette notion de posture, de maintien du gainage. Et donc, on dit toujours qu'on a du mal à tenir sur des longues séries. Donc, c'est pourquoi le soulevé de terre, en général, la plupart de ceux qui l'exécutent dépassent rarement les 10 répétitions en classique. Et encore, quand je dis 10, c'est assez large. Voire les 12 en semi-tendu pour faire les ischios et les fessiers. Mais c'est très rare de faire en série de 15. Donc là, pour l'instant... Vu que la personne pose la question, je pense que c'est le début du soulevé de terre ou le début d'un cycle. Donc pour l'instant ça progresse, mais après petit à petit, de toute façon, il va falloir réduire. Il y a le nombre de répétitions, de toute façon, on va se réduire de lui-même, hein, vu la difficulté de l'effort. Donc ouais, j'en pense du bien en début de cycle, mais c'est pas tenable sur le long terme. À un moment d'ailleurs, petit aparté sur le forum, la mode c'était de faire du 20 reps au squat. Et donc, c'était suivant les conseils de Stuart McRobert, donc c'était les programmes Art Gainer dont on a fait le fun auparavant.
N'importe quoi.
Ouais, n'importe quoi. Et donc, tout le monde faisait ça, sauf qu'à un moment, plus personne ne voulait aller faire sa séance, parce que c'était devenu tellement dur, qu'avant de faire sa série de 20, tout le monde était en train de Tout le monde était en panique, tout le monde s'est dit putain, oh ça va être dur, putain je vais être mort. Puis après on a trouvé le meilleur compromis au squat qui était aux alentours de 8-12 reps, qui était le mieux pour faire ces séries, et on a délaissé les séries de 20. Donc c'est comme vous soulevez de terre quoi, série de 15, tant que c'est pas trop dur ça va, mais dès que ça va vraiment être dur, c'est fini quoi. Je pense que... Je pense que psychologiquement après on va plus y aller. Hein.
Alors du coup il nous demande ensuite, que penses-tu de sa version avec les jambes surélevées sur un step, comme on peut le voir dans le programme Progresser au soulevé de terre. J'ai testé ça, et même si on met moins lourd, j'ai une sensation assez unique dans tout le dos. Trois petits points.
Bah pour justement pour le dos, normalement c'est moins bien parce que surélevé, donc ça veut dire, si je comprends bien, donc on descend la barre plus bas. Donc on va plus travailler le bas du corps, vu qu'on va avoir une flexion de genoux plus importante.
Là, à la remontée, ça travaille pas un peu plus les lombaires?
Ouais, un peu plus les lombaires, mais il est dans tout le dos.
Ouais, bah il est peut-être en train de se faire une hernie discale. Tu vas nous mettre une deuxième question la semaine prochaine. Je suis à l'hôpital. Comment faire pour récupérer plus vite?
Non, mais en fait, voilà, plus il y a d'amplitude. Au soulevé de terre, pour travailler le dos, il y a une bonne amplitude. En général, on descend à mi-tibia. C'est la bonne amplitude pour bien solliciter le dos sans trop solliciter les jambes. Après, quand on descend un peu plus bas, plus on fléchit de toute façon, plus on va travailler le bas du corps au détriment du dos. Donc, je pense que si le but est d'avoir du dos, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à faire du surélevé. Après, si on cherche à progresser au soulevé de terre et que le point faible qu'on a identifié, c'est le décollage de la barre donc au soulevé de terre, alors oui, là, c'est une bonne idée de faire du surélevé. Mais en dehors de ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Même la plupart... en sumo, je sais que les mecs qui font du sumo souvent faisaient du soulevé de terre sumo avec des petits poids plus bas pour s'entraîner au décollage. Après, si on fait du traditionnel, on a moins ce problème-là parce qu'en général, la barre décolle toujours. Et dans ce cas-là, les mecs font plutôt avec la barre surélevée. Donc pour mettre plus lourd en évitant le décollage, pour travailler le verrouillage.
D'accord.
Donc voilà. Donc Julien, c'est bon. Maintenant pour toi la question de l'année. Je pense, c'est une... je t'ai supplié pour te la poser, tellement elle est belle.
Qu'est-ce que c'est que cette question?
Que penses-tu d'être flexitarien? Alors déjà, on se demande ce que c'est, donc c'est précisé. Entre parenthèses, semi-végétarien. C'est-à-dire, en clair, manger de la viande et du poisson, de temps en temps, seulement quand on sort au resto et qu'on fait des sorties.
D'accord. Tu voulais commencer à répondre, Rudy?
Il y avait pas mal. Moi, je connais aussi des fritariens. C'est des gens que, quand ils vont dehors manger, ils prennent des frites au resto.
Alors,
oui, Rudy... il peut y avoir aussi des... je sais pas, on peut trouver tous les noms possibles, quoi, mais c'est pas mal.
Il faut quand même savoir que Rudy rigole derrière le micro. Comme toujours, il fait le malin. Mais Rudy est quand même rudétarien depuis maintenant au moins 15 ans. Ça fait 15 ans que t'es rudétarien.
12 ans.
Donc, quand même, ça fait quand même pas mal de moments. Donc, rudétarien, c'est aussi un peu spécial. En fait, en gros, en fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il est omnivore, en fait. Dans sa question. Puisqu'il mange du poisson et de la viande de temps en temps. Donc, bah, félicitations, donc, jeune homme, donc, tu es omnivore.
Tu es flexitarien?
Voilà.
Désolé pour celui qui a posé la question, mais c'est trop bon là. Oh là, c'est du haut niveau. Oh putain!
Quel salaud!
Julien, est-ce que tu fais une petite carrière?
Il achètera pas ton e-book, hein, lui. Hein.
Bon, question plus sérieuse d'entraînement.
Ouais. Nous sommes nombreux sur le forum à ne jamais avoir de courbature aux épaules, faisceau latéral, ce qui est normal. Pourtant, nous avons remarqué qu'avec des séries longues, par exemple 50 répétitions, on obtient de bonnes courbatures. Pour progresser, doit-on préférer des séries normales sans courbature ou des séries longues mais donc très légères?
C'est une bonne question à quoi je répondrai les deux, mon capitaine.
Absolument.
Donc c'est vrai que les épaules, donc notamment le faisceau latéral, c'est un muscle qu'on ne peut pas étirer. Donc déjà, qui est moins sujet aux courbatures, parce que en général, quand on peut étirer un muscle, les courbatures sont un peu plus faciles à avoir. Alors que sur le faisceau latéral, bah forcément, si on fait l'élévation latérale avec haltère, On les altère le long du corps, il n'y a aucune résistance en bas, ça les tire que dalle. Donc c'est sûr qu'on a du mal à avoir des courbatures. Et on a pas l'autre façon d'avoir des courbatures si on les tire pas, c'est de tenir la brûlure, entre guillemets, une certaine durée pour avoir des courbatures. Donc c'est ce qui se passe avec les séries de 50 répétitions, par exemple, pour le faisceau latéral. Alors après, pour les épaules, en général, quand c'est la... C'est rare que je conseille de faire des séries, qu'à la série normale, c'est pour faire une série normale, mais c'est rare que je fasse descendre en dessous de 12 reps. Et par contre, c'est très, très fréquent que je fasse monter 30, 40, 50 reps.
Moi, je me rappelle quand même, Rudy, personnellement, il y a quelques années, j'avais fait des séries de 100 reps pour les élévations latérales, et j'ai, malgré tout, j'ai jamais eu de courbature.
T'en as jamais eu ? Putain, c'est marrant, ça.
Non, jamais. Et par contre, évidemment, un petit peu, ça chauffe un peu, on sent le muscle fatigué ou quelque chose comme ça.
Tu mets des têtes légères, comment tu mettais ?
Oh ben, je me rappelle pas, des séries de 100, je sais plus, 4 ou 6, je sais plus.
Ouais, si, ça commençait pas mal, 4, c'est léger.
Ouais, je me rappelle plus, c'était avec avec Patrice.
Patrice, on te salue.
Patrice.
Petite dédicace, si tu veux mes e-books, tu peux m'écrire. Tu vas être content. Salut Patrice. Bon. Ouais, c'est marrant ça, donc ouais, pour les épaules, c'est rap. Donc en général, faut faire les deux. En général, quand on a du mal, si c'est un point faible, c'est bien de faire des séries longues, donc comme j'explique dans l'article Super Épaule, que j'ai fait relire à Julien d'ailleurs, qui me demandait comment j'avais eu des épaules. Donc c'est bien de faire des séries longues.
C'est peut-être un muscle aussi qui est pas mal adapté pour faire du dégressif.
Ouais, bah c'est ce que ça me fait penser à Jean Texier, donc qui est malheureusement mort, qui justement dans ses ouvrages conseillait souvent le dégressif pour les épaules.
Ouais.
Donc ouais, les épaules, c'est un truc qui brûle assez vite, et c'est vrai que la brûlure part assez vite en même temps. C'est vrai qu'en général, quand je travaille mes épaules ou que je les fais travailler, je fais toujours faire des séries assez longues, donc ouais, entre 12 et 40, 50 en moyenne. Donc après, il y a toujours un repère au-delà des courbatures qui est plus important, c'est quand même la notion de progression que j'explique donc dans mon premier e-book. C'est quand même ça le plus important, c'est de progresser à chaque séance ou du moins le plus régulièrement possible. C'est ça qui va déterminer la prise de muscle plutôt que les courbatures qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc voilà, donc moi je suis plus pour l'alternance qui a la gestion d'un cycle d'entraînement sur une grosse plage de répétition pour les épaules. Ça répond à la question, Julien ?
Parfait. Excellent.
Julien ?
Oui ?
Que penses-tu du lait cru ? Est-il aussi problématique pour l'organisme, sachant qu'il contient plus d'enzymes, de vitamines, etc., pour en faire une consommation modérée ? Deuxième partie de la question, quel est l'avis de Julien sur les livres de Tati, qui, elle, recommande, entre autres, les laitages et beurre cru ?
Première partie de la question. Alors, le lait cru, effectivement, a tendance à être plus digeste chez un bon nombre de personnes. À mon avis, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Probablement qu'effectivement, il doit y avoir des enzymes qui permettent de mieux digérer le lactose. Peut-être des bactéries et puis des protéines qui ont été moins dénaturées par le traitement thermique. Par contre, je vois pas pourquoi est-ce que les dangers potentiels des produits laitiers seraient différents avec du lait cru. Je vois aucune logique.
Je vois pas non plus le truc, mais c'est vrai qu'on le digère mieux.
Voilà, on le digère mieux, mais après...
J'ai déjà remarqué que les fromages au lait cru, tout ça, il n'y avait pas de souci, alors que quand tu prends un fromage normal, tu te sens vite passer.
Ça reste les protéines, ça reste de la caséine, de la whey, ça reste bourré de calcium. C'est un produit laitier, quoi. Donc pour moi... Je vois pas que ça soit...
Donc tu es en train de dire que les livres de Tati racontent n'importe quoi ?
Non, je dis juste que je suis pas de son avis. Après, chacun se retrouve là où il veut. Hein. On a le droit de... Il y en a bien... Tu sais qu'il y a des gens qui ont un cancer du poumon, on leur dit que c'est à cause de la cigarette, puis ils continuent à fumer.
Question une fois que c'est cuit, c'est cuit.
Bah non, t'es pas forcément... C'est pas forcément cuit, il y en a même qui sont sauvés du cancer et qui n'arrêtent pas de fumer pour autant. Et puis même au niveau alimentaire, ça arrive que, bon, c'est pas très fréquent parce qu'on soigne pas beaucoup de gens avec l'alimentation, mais ça arrive parfois que le médecin dise, bon, ben, si vous voulez guérir ou avoir moins de problèmes de santé, il faudrait changer ceci ou cela dans votre alimentation. Bah, beaucoup de gens ne changent pas et ils n'ont pas envie de faire cet effort-là. Donc, à ce titre-là, je pense que chacun adhère à ce qui lui fait plaisir. Donc, on peut avoir envie d'adhérer à Tati parce qu'on aime bien les produits laitiers et que ça nous conforte de lire que les produits à base de lait cru sont bons pour la santé. Ça peut conforter dans son idée et du coup convenir à certaines personnes. En tout cas, à moi, pas du tout. Voilà.
Bon, bah, au moins c'est clair. Hein. je fais la question d'entraînement et après on reviendra sur la diète pour une petite dernière. Donc, j'aime bien cette question. On entend un peu partout que le pull-over vert sert à grossir la cage thoracique et à étirer ses pectoraux. Dans un ancien podcast, vous dites qu'à partir d'un certain âge, et plus particulièrement quand on a terminé sa croissance, il n'est plus possible de la faire grossir. Commençant à bien pousser au développé couché. 4 x 10 à 100 kg. Donc, c'est parti, c'est quand même déjà un bon niveau. Et effectuant du pull-over chaque semaine, j'ai malheureusement des œufs au plat, donc des pecs très peu développés. J'aimerais donc savoir si cet exercice sert vraiment à quelque chose pour les pecs, et si je ne devrais pas le remplacer, par exemple, par des écartés couchés.
Bah, il faudrait quand même qu'ils nous disent si c'est des œufs au plat bio ou si c'est élevé en batterie. Parce qu'en termes de qualité des graisses, c'est pas pareil. Hein.
Et j'espère que tu la sors pas au fil cette blague là. Hein.
Non, c'est que pour toi.
Parce que là, celle-là.
C'est que pour toi.
Oh merde, moi je suis gâté. Hein.
Ouais.
C'est vrai que normalement, quand on fait 4x10 à 100 développés couchés, on doit avoir des pecs.
Ouais.
Donc là, pull-over ou pas, c'est pas le pull-over qui est à mettre en cause. Donc normalement, le pull-over, même s'il y a. Je sais pas quel âge a la personne, mais si elle est assez vieille et qu'il n'y a plus de choses de faire grossir la cage thoracique, c'est quand même un bon exercice pour les pectoraux. Mais c'est sûr que là, 4x10 à 100 et il n'y a pas de pectoraux, je dirais qu'au lieu de remplacer le pull-over par des écartés, il faudrait revoir un peu tout le programme.
Ouais.
Et se focaliser sur les pectoraux, comme je l'indique dans l'article Super Pectoraux. Et donc, adapter vraiment tous les exercices à sa morphologie, voir l'amplitude des exercices à adopter. Parce que là, c'est pas normal, 4x10 à 100, tu commences normalement à avoir des gros pecs. Hein.
Ça peut être quelqu'un qui commence, qui est bien dans le... un peu comme moi, par exemple, qui a de grands bras, et du coup, qui est peut-être plus adapté pour faire du développé couché en partiel bas.
Voilà, ou faire du décliné, ou faire autre chose. Après, faut voir...
Faut apprendre à pousser avec les pecs, quoi.
Après, faut voir dans l'article Super Pec si la personne se retrouve dans un des cas que j'avais décrit. Mais je partirais plus sur ça comme piste de recherche pour avoir des pecs plutôt qu'un remplacement d'exercice pull-over écarté couché. Ça va pas changer grand chose, je pense, hein, vu le niveau de la personne qui est déjà, comme je dis, un très bon niveau naturel. Dernière question de ce podcast, Julien. Quel est ton avis sur les vertus des jus de légumes frais mixés? Le fait de mixer les aliments dans une centrifugeuse conservent-ils néanmoins leur structure initiale ou y a-t-il une altération quelconque?
C'est la mode en ce moment des jus de légumes. La centrifugeuse, ça va pas modifier spécialement quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des vendeurs qui vendent des espèces de centrifugeuses pour faire des jus à des prix complètement délirants, sous prétexte que soi-disant ça conserve mieux des enzymes ou d'autres choses plus ou moins, en tout cas, pas très cohérentes scientifiquement parlant. Donc j'adhère pas du tout à ça. Donc je pense que si on veut se faire des jus de légumes, le premier blender venu fera très bien l'affaire. Et la question portait sur aussi les vertus, non?
Ouais, les vertus, je sais pas.
C'est les vertus des légumes. Hein. Donc je pense que si on peut manger des légumes, il n'y a pas besoin de faire des jus de légumes.
Bah oui, je pense aussi.
Donc voilà, après ça peut être pas mal pour des enfants ou des gens qui ont du mal à manger des légumes, parce qu'on peut faire des petits mélanges qui sont plus agréables en mélangeant des fruits et des légumes par exemple. Donc ça peut être ça l'idée, ça peut être pour quelqu'un qui est végétalien et qui veut se faire une petite boisson sympa, revitalisante, après le sport, par exemple. Ça peut être ça. Donc, oui, il y a quelques usages...
T'as réussi à nous trouver quelques vertus pour...
Il y a des utilisations. Hein. Ça reste... c'est du jus de légumes. C'est très riche en potassium, en magnésium. Il peut y avoir des composés anti-cancer, des polyphénols. Il n'y a pas trop de glucides. Donc c'est assez intéressant. Et bon, je privilégie quand même les légumes entiers. Au moins on a les fibres en plus. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les
fibres. Ça répond bien à la question. Donc je rappelle comme chaque semaine que si vous avez des questions, bah c'est avec plaisir qu'on y répond et qu'il faut les mettre. Donc c'est sur le forum Superphysique, c'est la rubrique entraînement et donc c'est le sujet qui s'appelle podcast qui est tout en haut, on peut pas le louper. Et donc vous mettez vos questions dedans et après bah je les note et puis on y répond au fur et à mesure chaque semaine. Et comme vous voyez dans la bonne humeur avec le maître des castors.
Ouais. Et avec les moqueries de Rudy. Oh là là.
Ah c'est dur à supporter. Hein.
Quelle honte.
Sur ce, à la semaine prochaine.
À bientôt.